Très bel été à tous. Et bienvenue dans votre grand journal du soir. Jusqu'à 19h, nous sommes donc avec vous, Sébastien Guyot.
Et à la une ce soir, ce scénario hallucinant, je vous le disais, sur le Tour de France. La deuxième étape des Alpes arrêtée en raison de la grêle, c'est du jamais vu. Alaphilippe qui perd son maillot jaune. Et l'image du jour, terrible image, les larmes de Thibaut Pinot qui abandonne. Nous rejoignons Axel May et Marguerite Lefebvre à Tignes dès le début de ce journal pour revivre cette étape incroyable. Et bien sûr, vous réagissez au 39-21. La canicule que nous venons de vivre était exceptionnel. Je vous le disais, un prévisionniste de Météo France viendra nous dire qu'il y aura un avant et un après 2019. Nous vous aiderons également ce soir à circuler pour ce nouveau week-end de départ en vacances. Les vacances pour Emmanuel Macron, c'est au fort de Brégançon. Nous rejoindrons Yasmina Katou sur place et Guillaume Daret, auteur d'un livre sur les secrets et les coulisses des vacances présidentielles, sera avec nous. Et puis, Pierre Péan est mort à l'âge de 81 ans. Le passé trouble de François Mitterrand sous l'occupation, les diamants de Bokassa, c'était lui. Il était l'anti-Edoui Plenel, nous dit son ami Christophe Nick. Bienvenue dans votre grand journal du soir. Sur tous ces sujets, vous prenez la parole. On vous attend au 39-21.
18h-19h,
votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Et sans tarder, on part sur les routes du Tour de France. Bonsoir Axel May.
Bonsoir Sébastien.
Je le disais, une 19e étape d'anthologie.
Oui, vous avez raison d'employer ce terme parce que d'abord, on a eu un abandon dès le début de l'étape. Thibaut Pinot, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, alors que les hostilités étaient lancées entre les meilleurs dans la montée du col de l'Iseran, le sommet du Tour de France à plus de 2700 mètres, eh bien, Egan Bernal, le jeune Colombien, était parti. Il avait décoché une fléchette et il avait dit au revoir à tout le monde. Il était en tête dans la descente. Il avait repris le maillot jaune à Julien Alaphilippe. Et voilà qu'on apprend qu'il y a eu de la grêle juste avant d'arriver sur Val d'Isère et avant de remonter à Tignes, là où je me trouve actuellement, là où devait avoir lieu l'arrivée de l'étape, de la grêle, des coulées de boue, la route était barrée et là à ce moment-là, Radio Tour a dit on arrête l'étape et c'est ce qui s'est passé, étape arrêtée avec les temps qui ont été les temps qu'on va
figer
au niveau du col de l'Iseran, exactement.
Et donc conséquence, Axel, Julien Alaphilippe perd son maillot jaune ce soir.
Oui, parce qu'il avait 1 minute 30 d'avance sur Egan Bernal au départ et que au passage du sommet de l'Iseran, il avait 2 minutes 02 de retard. Donc vous faites le calcul, il a ce soir 30 secondes de retard sur Egan Bernal. Alors il avait commencé, ce qu'il est très bon descendeur, à essayer de récupérer du temps et puis la course a donc été neutralisée pendant cette descente du col de l'Iseran.
Alors est-ce qu'il a encore une chance de gagner ce tour puisqu'il reste une étape demain dans les Alpes? Eh bien, Julien Alaphilippe a répondu tout à l'heure.
Je pense que c'était déjà un rêve de le porter. J'ai poursuivi le rêve longtemps, bien plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Et voilà, j'ai donné le maximum et j'ai été battu par plus fort, c'est comme ça. À partir du moment où j'ai enfilé le maillot, je ne me suis pas mis à rêver du jour au lendemain que j'allais gagner le Tour de France. Mais c'est vrai que je me battais chaque jour pour le garder. Et je me suis battu jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les derniers kilomètres, jusqu'au sommet et même dans la descente. Et jusque maintenant dans la voiture pour rentrer à l'hôtel. Moi, je l'avais dit, hein, qu'importe le résultat, j'aurais pas de regrets. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets, j'ai tout donné.
Julien Alaphilippe qui répondait à nos confrères de France Télévisions. Axel May, on est bien d'accord, il est quand même sur le podium ce soir, Alaphilippe.
Oui, alors j'ai pas le résultat définitif, le classement définitif, parce qu'à cela, vous ajoutez qu'il y a une panne de 4G à Tignes, donc c'est difficile d'avoir les résultats. Le podium est en train d'avoir lieu, va commencer, donc c'est là où on aura aussi le classement officiel. Mais ce soir, il est sur le podium devant Geraint Thomas et derrière Egan Bernal, Julien Alaphilippe.
Alors c'est vrai que les conditions sont difficiles, on va rejoindre dans un instant Marguerite Lefebvre qui est à Val d'Isère où les coureurs sont attendus pour rejoindre Tignes et leur hôtel dans un instant. Mais d'abord Axel, l'image du jour, l'autre image du jour, ce sont les larmes de Thibaut Pinot.
Oui, Thibaut Pinot, il était, c'était dans la première petite ascension du jour, avant même le col de l'Iseran. On voit le médecin du Tour de France qui vient lui mettre un bandage, ou plutôt lui remettre un bandage autour de la cuisse gauche. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a un problème. Et puis, il s'arrête. Et entre-temps, ses coéquipiers lui avaient tapé sur l'épaule, comme s'il savait qu'il s'était passé quelque chose. Et bien, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a deux jours, pour éviter une chute, il s'est cogné fortement la cuisse gauche contre son guidon. La douleur a empiré hier. Ça explique pourquoi il n'était pas au top de sa forme. Et ce matin, il espérait repartir. Et finalement, il n'a pas pu repartir. Paul Hermant a rencontré Marc Madiot à l'hôtel de Groupama FDJ, hein, son équipe. Écoutez la réaction forcément dépitée de Marc Madiot.
C'est toujours difficile, hein, quand on est si près de la fin d'un objectif majeur, d'une course comme le Tour de France. Ça prend forcément des proportions au niveau des émotions, ça prend des proportions assez importantes. On va dire qu'il est quand même pas verni par le destin. Hein. L'an dernier, il était sur le podium du Giro, il abandonne à 24 heures de l'arrivée. Là, on était en bataille pour plus même que le podium, et il est aussi contraint à l'abandon. Donc là, il va falloir l'entourer d'affection, de sympathie, et l'aider à évacuer ce mauvais moment et se reconstruire et se remobiliser pour la suite de sa carrière, pour qu'il puisse retrouver la plénitude de ses moyens et toute la confiance qu'il avait emmagasinée, notamment pour ce Tour de France.
Voilà, Marc Madiot, le manager de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est allé, je crois, se réfugier chez lui parce qu'il a un pied-à-terre à Tignes, lui qui est des Vosges, dans la station où nous nous trouvons. Il est allé se réfugier avec notamment son frère et ses parents qui étaient venus le voir initialement parce qu'ils pensaient pouvoir peut-être fêter une nouvelle victoire de Thibaut Pinot.
Merci Axel May. Alors vous êtes à Tignes et non loin de là, il y a Marguerite Lefèvre sur la moto Europe 1. Vous êtes à Val d'Isère. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir Sébastien.
Alors c'est là que les coureurs se retrouvent pour remonter à Tignes en voiture, et c'est très compliqué encore ce soir avec cette grêle qui s'est abattue dans la région.
Oui, en fait on avait une scène complètement surréaliste hein, ici à Val d'Isère, au pied de cette dernière montée vers Tignes. Tous les coureurs ont en fait été prévenus via l'oreillette de la neutralisation de la course. Ils étaient pour la plupart dans la descente de l'Iseran et on leur a dit expressément de faire cette descente dangereuse très tranquillement en ne prenant aucun risque. Résultat, on a vu arriver ici à Val d'Isère au compte-goutte des coureurs complètement frigorifiés. Egan Bernal en tête qui cherchait désespérément les voitures de leurs équipes. Certaines voitures ont mis pas mal de temps à arriver, ont même dû rebrousser chemin pour venir chercher leurs coureurs. Ça vous donne une idée de la pagaille qu'on a vécue ici à Val d'Isère. Le baroudeur français Johan Ofredo n'avait jamais vu cela.
C'est un sacré bazar, j'ai jamais vu ça. Moi, ça fait partie de la course, j'en sais rien. Ça arrive qu'il y ait des éboulements, des machins, mais là tout le monde est un peu perdu. Je pense que c'est la première fois qu'il se passe quelque chose comme ça sur le Tour de France. S'ils le font, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que j'ai rarement vu dans ma carrière une course annulée. Il peut y avoir de la neige, de la tempête, tout ce qu'on veut, c'est rarement annulé, donc c'est que ça doit être vraiment impossible de pratiquer sur la route.
Et en effet, la route était totalement impraticable en raison de cette averse de grêle qui s'est abattue sur la chaussée. Alors, cette pagaille, cet embouteillage géant a duré une bonne demi-heure tout à l'heure, mais désormais, les coureurs ont tous regagné leur voiture et tout le monde est reparti il y a quelques minutes au chaud, en convoi vers Tignes, où se trouvent les hôtels. Les coureurs qui vont désormais tenter de récupérer le plus vite possible avant l'étape de demain.
Merci Marguerite Lefèvre, merci Axel May. On vous retrouve bien entendu dans le Club Tour de 19h à 20h avec les consultants d'Europe 1, Thomas Veuclair, Patrick Chassé, pour parler de tout cela. Et puis bien sûr, vous, auditeurs, réagissez à cette étape dantesque au 39-21. On vous attend.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, la canicule. Hier, c'était la journée la plus chaude jamais enregistrée pour la moitié nord de la France. Près de 43 degrés à Paris, 39,7 à Caen, un petit peu plus de 41 à Lille. Y aura-t-il un avant et un après 2019? Et ben, on va poser la question au prévisionniste François Jobard de Météo France dans un instant.
Et puis on vous aidera bien sûr à circuler sur les routes de France, sur la route des vacances. À tout de suite.
Il est 18h10, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Guyot.
Et ce soir, Europe 1 vous aide à circuler sur la route de vos vacances.
Pour un départ en vacances, zéro tracas, MMA vous présente le radioguidage Europe 1.
Journée classée orange dans le sens des départs. Caroline Baudry, bonsoir.
Bonsoir.
Où se concentrent ce soir les principales difficultés?
Alors surtout dans le sud-est, le trafic est fortement perturbé sur l'A7 entre Lyon et Orange après un accident au niveau de Saint-Paul, Trois-Châteaux. Bison Futé vous déconseille de rejoindre l'A7 en direction de Lyon. Attention dans l'ouest également, sur l'A10 aux quelques ralentissements entre Tours et Bordeaux. Des points de blocage aussi aux abords des villes de Nantes, de Strasbourg, de Toulouse, de Toulon et d'Antibes. Et puis en région parisienne, vous patientez un peu si vous êtes sur le périphérique extérieur au sud-est de Paris en raison d'un accident près de la porte de Vincennes.
Merci Caroline Baudry, on vous retrouve toutes les heures pour ce radio-guidage sur Europe 1. Alors pour circuler, vous allez avoir moins chaud qu'hier, heureusement. Ça y est, on respire enfin, la canicule est derrière nous, mais quel épisode intense. Bonsoir François Jobard.
Bonsoir.
Vous êtes prévisionniste chez Météo France. Ce soir, les Français respirent enfin. On va perdre jusqu'à 20 degrés en moins de 48 heures. 22 demain à Paris contre plus de 42 hier. D'abord, comment ça s'explique ?
Alors on a eu une canicule d'une intensité vraiment exceptionnelle, hein, notamment qui a culminé la journée d'hier avec une journée historique hein, sur le nord du pays. On a eu une avalanche de records absolus qui ont été battus parfois de plusieurs degrés, donc ce qui confère à l'événement une dimension vraiment exceptionnelle, inédite. Donc les superlatifs manquent en effet pour caractériser ce pic de chaleur qu'on a eu hier.
Mais cette différence de 20 degrés, comment vous l'expliquez en si peu de temps ?
Alors cette différence s'explique par l'arrivée tout simplement d'une masse d'air océanique et donc plus fraîche avec des températures plus conformes aux normales de saison, plus proches de 20 degrés et donc passer effectivement des températures proches de 40 à 20, ça fait des baisses en 24 heures donc qui ont approché les 20 degrés comme c'était déjà le cas aujourd'hui du côté de Poitiers ou du côté du Mans. Ce sont que quelques exemples mais en général dans l'Ouest on a perdu 15 à 20 degrés en 24 heures.
Alors, deux vagues de canicule en quelques semaines en France, c'est du jamais vu. Nous ne sommes que le 26 juillet et vous pouvez nous dire ce soir qu'il y aura un avant et un après 2019 ?
Oui, tout à fait, parce que les records, de très nombreux records ont été battus à la fois en juin, qui concernait davantage les régions sud, notamment les régions méditerranéennes, et cette fois-ci, c'est tout le nord du pays où on a dépassé les précédents records de parfois 1 à 4 degrés, donc c'est considérable, et ça nous interpelle en tant que météorologues de battre dans le même été, donc plusieurs séries de records absolus, donc c'est cohérent vraiment avec le réchauffement climatique hein, qui vraiment permet d'avoir ces vagues de chaleur d'intensité record.
François Jobard, quand on regarde les températures records jamais observées dans les villes, dans le monde maintenant, c'est assez inquiétant. 42,6 degrés à Paris, on le disait, c'est plus qu'à Madrid, 40,3. Comment vous expliquez que la France, pays au climat tempéré, soit autant touchée ?
Alors en effet, hein, Paris et même Lille avec entre 41,5 et 42,6 pour Paris, donc on dépasse ces records, dépasse les records de Madrid. Alors il faut quand même préciser que Madrid est à 600 mètres d'altitude, donc il y a un petit peu l'altitude qui joue, mais c'est vrai que c'est vraiment très étonnant, ça nous interpelle tous, à commencer par nous météorologues, et donc on a vraiment eu une configuration météorologique donc particulièrement exceptionnel et donc qui a permis d'avoir ces records avec des masses d'air donc extrêmement chaudes et une configuration qui a permis d'avoir une compression de l'air sous la cellule anticyclonique et donc ce qui a accentué encore je dirais le côté exceptionnel qui a donné encore quelques degrés supplémentaires avec en plus des sols extrêmement secs et donc quand les sols sont secs eh bien donc ça favorise ces valeurs extrêmes à contrario. Donc des sols plus humides, comme on a eu un petit peu en juin sur certaines régions, ça va faire un ressenti plus humide, mais des valeurs dans l'absolu moindres. On va avoir plutôt du 35-37 plutôt que des 40-42, voire 43.
Vous, à Météo France, est-ce que vous pouvez savoir dès maintenant s'il va y avoir d'autres épisodes caniculaires aussi intenses cet été ?
Alors, il est impossible de le savoir. Alors, pour la première semaine d'août, donc c'est exclu. Après, ça n'est pas impossible hein, d'avoir un nouvel épisode caniculaire, tout comme il serait possible d'avoir une bonne partie du mois d'août avec un temps, disons, relativement plus frais, plus nuageux et plus humide. Tout reste possible en météo. Donc, jusqu'à la première semaine d'août, en tout cas, le risque de canicule est exclu.
On est tranquille. Un dernier mot rapide, François Jobard. De cette grêle impressionnante qui a interrompu le Tour de France. Vous avez peut-être vu les images tout à l'heure. C'est un phénomène que vous expliquez, là encore, aussi intense.
Oui, alors effectivement, on a eu des chutes de grêle hein, qui ont véritablement blanchi la route au point de stopper la course du Tour. Donc ça s'explique par des contrastes thermiques. Comme on est sur la fin de l'épisode caniculaire et que des masses d'air plus fraîches et plus froides en altitude commencent à arriver donc à la fois par l'ouest et en altitude, les contrastes thermiques s'accentuent et l'instabilité devient maximale. Et donc en montagne, il suffit d'une instabilité très forte pour que les orages démarrent extrêmement rapidement. Et donc, dans ces situations, notamment après les très fortes chaleurs, il y a très souvent des chutes de grêle, des orages parfois forts. D'ailleurs, donc un certain nombre de départements du centre-est est actuellement en vigilance orange pour des orages pour ce soir et aussi pour la journée de demain.
Merci François Jobard pour votre décryptage. Et on retiendra qu'il n'y aura donc pas de canicule avant début août. Merci.
18h-19h, Sébastien Guyot sur Europe 1.
Et à 18h17 sur Europe 1 précisément, c'est le rappel des titres avec Sophie Echen.
Une scène historique sur le Tour de France aujourd'hui. L'étape a dû être stoppée à cause de l'état de la route, impraticable après une averse de grêle. Le Colombien Egan Bernal récupère le maillot jaune au détriment d'Alaphilippe. Et l'autre espoir français de victoire finale, Thibaut Pinot, a abandonné en début d'étape victime d'une blessure à la cuisse. L'enquête de l'IGPN sur l'interpellation de lycéens à Mantes-la-Jolie classée sans suite. En décembre dernier, 151 jeunes avaient été regroupés de force par les forces de l'ordre à genoux, menottés, les mains sur la tête. La scène filmée par un policier avait suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Un détenu de la prison centrale de Moulins-Isère dans l'Allier s'est suicidé dans sa cellule. Cet homme de 45 ans a été retrouvé pendu avec ses draps. Il y a deux semaines, la prison avait déjà été endeuillée par la mort d'un détenu de 19 ans qui avait mis le feu à sa cellule. Et puis Emmanuel Macron se rendra à Tunis demain pour assister aux funérailles du président Essebsi, mort hier à l'âge de 92 ans. La Tunisie qui a décrété 7 jours de deuil national.
Merci Sophie Echen, on vous retrouve à 18h30.
Emmanuel Macron a pris ses quartiers d'été au fort de Brégançon, la résidence estivale du président. Eh bien, on va en parler dans un instant avec notre envoyé spécial Yasmina Katou.
Europe 1.
18h20, votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 19h sur Europe 1, Sébastien Guyot.
Et nous partons tout de suite au fort de Brégançon. C'est là qu'Emmanuel Macron passe ses vacances en famille. Il est arrivé hier avec son épouse. Il promet des vacances au calme, mais studieuses. Et Yasmina Katou, on vous retrouve sur place. Le séjour du chef de l'État, pour le moment, se déroule dans une indifférence relative, on va dire, même si vous avez croisé sur la plage, en face du fort, deux gilets jaunes en maillot de bain.
Oui, au bord de l'eau turquoise, à une centaine de mètres du fort, Béatrice bronze depuis ce matin. Pour sa journée à la plage, elle a évidemment sa crème solaire, son transat et son indispensable depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, son gilet jaune dans son sac. Les pieds dans l'eau, la gilet jaune a un avis très tranché sur les vacances du président.
Au frais de la princesse, et ça c'est grave. Il avait qu'à rester à l'Élysée et trouver des solutions pour que les gens puissent mieux vivre, c'est tout. Voilà, quand on vous dit qu'il vient là pour faire des vacances studieuses, c'est bon là, faut arrêter. Moi je les prends les mêmes vacances que lui, studieuse. Hein. Je prends un bouquin, je suis studieuse. Hein.
Sur la serviette d'à côté, Amélie, elle se prépare à plonger avec son tuba. C'est une habituée et selon elle, pas de quoi être jaloux de la plage privée d'Emmanuel Macron.
Personnellement, j'ai déjà fait deux fois le tour du fort à la nage. Donc la petite plage qui est dédiée au fort, je la connais de loin. Et en fait, je ne l'envie pas vraiment parce que les deux plages sur lesquelles on se trouve sont plus belles que la petite plage qui est réservée au président. C'est une info.
Et je vous le confirme, Sébastien, on est plutôt pas mal ici, vu sur le fort de Brégançon, champ des cigales et une eau à 26 degrés.
La chanceuse Yasmina Katou, merci. Et les secrets du fort de Brégançon, les coulisses, la piscine, les vacances présidentielles, on en reparlera avec notre invité Guillaume Daray, le journaliste qui a sorti un livre consacré aux coulisses du fort de Brégançon. Il sera avec nous vers 18h40.
Et vous le savez, vous pouvez intervenir, réagir dans votre grand journal du soir sur Europe 1, 39-21.
Et on accueille tout de suite Laurent. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de la route du Tour, justement, parce que vous étiez sur place aujourd'hui, au pied du col de l'Isvran, pour vivre cette étape absolument incroyable.
Alors, oui, tout à fait. Alors, nous, on était côté Bonneval-sur-Arc, on était au pied de la montée. On y a passé l'après-midi et alors on a effectivement essuyé petite averse qui a duré 2-3 minutes juste avant que les coureurs arrivent et le temps s'est éclairci d'un coup et une fois que les coureurs sont passés, nous sommes donc redescendus la route ouverte, nous sommes redescendus pour voir l'arrivée à Val-d'Isère et Tignes plutôt, et on a constaté effectivement qu'il y avait eu ce qui s'est passé, quoi, l'arrêt de la course.
La grêle. Puis, de la grêle qui a coupé la route et qui a empêché la poursuite de la course. C'est du jamais vu hein, sur le Tour de France. Vous suivez particulièrement ce Tour parce qu'il y avait des Français qui avaient des chances de victoire, Alaphilippe, Pinot. Donc vous êtes, j'imagine, quelqu'un de déçu ce soir.
Alors oui, moi personnellement oui, effectivement, parce que je suis français, mais alors l'anecdote c'est que je transporte un groupe de Colombiens qui est arrivé de Colombie mercredi dernier, donc on a fait toutes les Pyrénées, et là à mon arrivée à l'hôtel, j'ai eu droit à la petite coupette de champagne, parce qu'effectivement Bernal a pris le maillot ce soir.
Eh oui, il est en jaune et il est
un peu chambré par mes Colombiens.
Oui.
C'est
bonne guerre.
On prend avec le sourire, bien sûr. Hein.
Bon, malgré tout, vous y croyez encore à la victoire d'Alaphilippe ou pas?
Ça va être très dur demain. J'entendais des commentaires donc hors caméra et ils disaient qu'effectivement il était cuit. Il a annoncé qu'il était cuit et que ça allait être très dur pour lui. Mais c'est comme au foot, hein. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, on n'est pas une surprise d'un but. Et pourquoi pas demain une défaillance, un revirement de situation. Bon, pour Pinot, malheureusement, c'est fini. Je pense que toute la France était derrière lui. Maintenant, on a notre maillot à poids. On a Romain qui va amener le maillot à poids, sauf accident, demain à Paris. Donc, une grande satisfaction pour lui, même s'il espérait autre chose sur ce Tour 2019. Et pourquoi pas Julien, demain, on n'est pas à l'abri d'une chute. On n'est pas à l'abri de... l'étape demain sera très, très difficile. En espérant qu'il se repose cette nuit. Tout est à refaire, mais faut y croire.
Laurent, vous êtes connaisseur hein, du cyclisme et vous êtes de la région, donc de Chambéry, c'est ça?
Alors moi, je suis effectivement de Chambéry et je transporte, comme je vous disais, des Colombiens. Là, ils sont 30 dans mon autocar là et ça va être la fête à Paris pour eux. Je les ramène dimanche, là, je les remets au train dimanche matin à Chambéry pour qu'ils puissent arriver à Paris tout de suite en début d'après-midi pour aller voir l'étape, en espérant que dimanche soir à l'hôtel, j'offre moi le champagne et que Julien a repris le maillot.
Oui, et il faut que vous réconfortiez aussi Thibaut Pinot, hein, le régional de l'étape qui était en larmes hein, tout à l'heure. Terrible image.
Oui. Des images terribles, terribles pour le cyclisme. Je pense que quand on est amoureux du vélo, ça laisse pas indifférent. J'ai écouté les commentaires de Johan Ofredo qui passe à côté de lui au moment où il est en larmes et que son collègue le prend dans les bras au moment où il s'arrête. C'est très dur de voir des images comme ça dans le cyclisme. Vaut mieux, on va dire, un coureur qui arrête comme ça sur blessure qu'une chute très grave, quoi, comme on a pu voir sur d'autres tours. Voilà, c'est dommage. C'est un grand coureur. Il nous a fait vivre des émotions sur le Tour Malais. Il nous a fait vivre des émotions incroyables et il a fait vivre avec ce qu'il a pu apporter aux Français ainsi que Julien. C'est un tour qui restera dans nos mémoires, on va dire.
Ah oui, c'est peut-être le meilleur, hein, les spécialistes disent, depuis, en tous les cas, le plus de suspense et avec tellement de rebondissements depuis peut-être près de 30 ans avec Lemond et Fignon. C'était en 89. Vous m'arrêtez parce que vous avez l'air tellement spécialiste si je me trompe. Laurent, en tout cas, merci d'avoir témoigné ce soir sur Europe 1 votre passion pour le Tour de France, vous qui étiez sur l'étape du jour.
Merci, et puis on reste derrière nos Français demain. Allez, jusqu'au franchissement de la ligne, on est tous derrière eux.
On compte sur vous, Laurent. Merci, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Sébastien Guyot.
C'est un peu David contre Goliath, un employé de McDo face aux géants américains. Nous sommes à Marseille, plusieurs employés licenciés à Saint-Barthélemy précisément. Parmi eux, leur leader, vous vous en souvenez peut-être, un délégué du personnel FO. Et bien aujourd'hui, Kamel Guémari a remporté une victoire, Stéphane Burgat.
Oui, et l'inspection du travail qui justifie ainsi sa décision dans un courrier reçu ce jour par Kamel Guémari. La raison du licenciement est directement liée à son mandat syndical et ça, en termes de droit du travail, bien, ce n'est pas recevable, tout comme le motif économique qui est évoqué dans la procédure. Alors, c'est une victoire pour eux, certes, oui, mais elle est amère.
Je ne vois pas aller où la victoire. Il y a 6 salariés sur le carreau, il y a plus d'une vingtaine, presque une trentaine de CDD. Ça fait un an qu'on les reconduit. On vit dans un quartier qui est vraiment frappé par la précarité, la fracture sociale. Donc on se bat pour notre petite jeunesse, qu'elle puisse retrouver le goût du travail et se battre pour cette injustice. Voilà, le cauchemar continue chez McDonald's.
Et ce n'est pas le premier rebondissement dans ce dossier. En septembre dernier, déjà, le tribunal de grande instance marseillais avait cassé le projet de reprise de ce restaurant par une société tunisienne totalement inconnue dans le but d'en faire un fast-food asiatique halal avec un modèle économique qui avait laissé songeur autant les salariés que la juridiction.
Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1. Merci.
Europe 1. Il s'était fait connaître par ses enquêtes et notamment sur le passé de Mitterrand pendant l'occupation ou l'affaire des diamants de Bokassa. Pierre Péan nous a quittés hier soir. Hommage dans un instant avec l'un de ses amis journalistes, Christophe Nick. Ce sera après la météo et le rappel des titres.
La météo, Laurent Cabrol, ce soir, 27 départements sont toujours en vigilance orange et notamment pour les orages.
Ben oui, les orages balayent la canicule et en la balayant, eh bien, ils apportent de la fraîcheur. La zone orageuse va progresser durant la nuit et demain, elle se concentrera sur la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, le Midi-Pyrénées et le bassin méditerranéen. Ça veut dire que cette zone orageuse, bien sûr, est précédée de cellules orageuses, comme celles que nous avons vues sur le Tour de France, mais partout ailleurs, le temps redeviendra un peu plus calme, certes, mais surtout beaucoup plus frais, avec des températures en chute libre, 20 degrés à Clermont-Ferrand demain après-midi, 21 à Toulouse, à Limoges et Bordeaux, 22 à Paris, comme à Sedan, à Bourges et Poitiers, rendez-vous compte, 22 à Paris, 23 à Lille et Biarritz, 24 à Besançon et Dijon, 25 à Lyon, 25 à Nancy, 26 à Strasbourg et 30 degrés à Marseille. Voilà pour une journée qui devient demain une journée respirable.
Respirable, journée normale. C'est le bon mot. Merci Laurent Cabrol.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h30.
Et à 18h30, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Sophie Echenne.
Julien Alaphilippe craque au sommet du col de l'Iseran. Le Français perd son maillot jaune dans les Alpes aujourd'hui. C'est le Colombien Egan Bernal qui le récupère. Une étape également marquée par l'abandon de Thibaut Pinot, blessé à la cuisse. La course a dû être interrompue en raison d'une averse de grêle au niveau de Val d'Isère cet après-midi. Près de 2000 personnes rassemblées à Rouen cet après-midi. Une marche blanche en hommage à Mamoudou Barry. Le professeur franco-guinéen a été tué à un arrêt de bus dans le nord de la ville vendredi dernier. Ses proches dénoncent un acte raciste. Ils demandent à ce que justice soit faite. L'enquête de la police des polices, l'IGPN, classée sans suite après l'interpellation de plus de 150 lycéens à Mantes-la-Jolie. C'était en décembre dernier, en marge d'une manifestation. Un policier avait filmé la scène. On pouvait y apercevoir des dizaines de jeunes à genoux, mains sur la tête et menottés. Et puis, prudence et patience seront de mise si vous prenez la route. Journée orange dans le sens des départs. Ça bouchonne encore ce soir sur l'A7 entre Lyon et Orange notamment, sur l'A10 également entre Poitiers et Bordeaux. Demain, ça sera pire. Nouveau week-end de départ en vacances. Journée rouge dans le sens des départs. Orange pour les retours.
Et Europe 1 vous aide à circuler. Prochain point à 19h. Merci Sophie Echenne.
18h-19h. Votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Et avec votre invité à présent, le journaliste, enquêteur et réalisateur Christophe Nick, ami et collaborateur de Pierre Péan.
Oui, si je vous dis l'affaire des diamants de Bokassa, le passé trouble de François Mitterrand sous l'occupation ou encore la face cachée du monde, vous pensez bien sûr à Pierre Péan, le journaliste décédé hier à l'âge de 81 ans. Bonsoir Christophe Nick.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio ce soir sur Europe 1. C'est vous qui avez annoncé le décès de Pierre Péan sur votre page Facebook hier soir. C'était un ami pour vous. Le patron, avez-vous écrit ?
Oui, je crois pas que pour moi. C'était le maître de l'enquête et il a appris toute une génération une éthique, une vision, une rigueur, une humilité, une hauteur de vue. Voilà, sur là où c'est le plus difficile d'aller, c'est-à-dire les enjeux de pouvoir, les fonctionnements de nos démocraties ou pas d'ailleurs, les mécaniques du pouvoir et leurs abus. Voilà, il a tout osé.
Il était à l'origine de révélations qui ont fait trembler la République, je le disais. L'affaire des diamants de Bokassa, offert à Valéry Giscard d'Estaing, c'est dans le Canard enchaîné en 1979. Les liens entre François Mitterrand et la droite pétainiste. Dans son livre, Une jeunesse française, Mitterrand 1934-1947. Et pourtant, il n'aimait pas le qualificatif de journaliste d'investigation. Pourquoi ?
Oui, il détestait. Parce que l'investigation, c'est un terme de police. C'est-à-dire qu'il s'agit de trouver des coupables. Et donc, vous exercez votre métier en traquant quelqu'un jusqu'à éplucher des notes de frais, quoi. Voilà, hein, bon. C'était pas du tout, mais l'inverse absolu de sa conception du journalisme, qui était au contraire d'essayer de comprendre sans jamais juger. Comprendre et comprendre les mécanismes dans lesquels les hommes sont. Et donc, quelle est la part d'humain dans ces mécanismes de pouvoir ? Quelle est la place de l'individu là-dedans et sa complexité ? Voilà, c'est
ça. Ne pas être manichéen, il y a des zones grises.
Ah oui, il n'y a, j'allais dire, il y a que des zones grises avec Pierre. C'est ça qui était fou. C'est-à-dire, à la limite, quand est-ce qu'on arrête une enquête ? Voilà, ça n'avait pas de fin. Mais quand il passe 10 ans de sa vie à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à caluire sur la mort de Jean Moulin, Voilà, ça donne l'épaisseur de cet homme. C'est d'abord, il avait un amour fou du scoop. Dénicher un papier, trouver au fin fond d'une archive improbable le texte avec le tampon, la signature, l'authentification, et en même temps ne jamais accabler, ne jamais condamner, toujours essayer de comprendre.
Et sa méthode, c'était de prendre le temps. Quel regard il avait aujourd'hui sur les journalistes des chaînes d'infos, sur les réseaux sociaux ?
Sur notre métier en général. Il désignait pas. Il était affolé. Affolé. Voilà, il n'osait même plus s'appeler journaliste. Il se disait écrivain et il ne trouvait plus son bonheur qu'en faisant des livres ou avec nous des documentaires. Mais non, là, voilà, il adore l'actu, il adore l'info, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est beaucoup plus cette espèce d'immédiateté, de clouer au pilori. On apprend tout de suite une affaire qu'il faut qu'elle soit résolue, et pourquoi il n'est pas en prison, et pourquoi il n'a pas démissionné, et pourquoi, et voilà, l'espèce d'alali, l'effet de meute, l'acharnement, la désignation d'individus comme coupables ou comme cibles, ça, il détestait ça.
Donc là, vous pensez par exemple à l'affaire de Rugy, la façon dont elle a été traitée, par exemple ?
Non, mais c'est vraiment pas de nom, là, voilà. C'est une mécanique générale qui dénonçait déjà dans les années 80. Là, je me souviens, quand les premiers trucs qu'on a fait ensemble autour des Irlandais de Vincennes et tout, il était déjà affolé par ce mécanisme. Je me souviens de quand c'était tout ce qu'on a appelé l'affaire des frégates de Taïwan et qui, dans le monde, était devenue l'affaire Roland Dumas. Voilà. Et que tous les jours, pendant 2 ans et demi, il y avait tous les deux jours un article à la une du Monde sur Roland Dumas. Et vous avez compris quelque chose aux frégates de Taïwan ?
Il n'aimait pas les raccourcis.
Ah mais oui, et surtout c'est l'utilisation d'un pouvoir médiatique pour clouer au pilori.
Alors il pensait quoi de Mediapart, par exemple ?
Bah, c'est un ennemi historique, voilà. Hein, on va dire les choses, il y avait deux conceptions absolues dans notre métier, et on le sait tous, il y avait la conception Péan et la conception Plenel. La conception Péan, c'est l'enquête, la conception Plenel, c'est l'investigation. Et donc la première, c'est essayer de comprendre, et l'autre, c'est accuser. Bon, c'est pas pareil.
Et il ne l'avait pas épargné, notamment dans La face cachée du monde, l'un de ses grands succès en librairie qui était sorti en 2003. Vous aviez écrit, co-écrit, vous avez travaillé sur plusieurs enquêtes ensemble, mais notamment TF1, Un pouvoir en 1997, il me semble. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années ensemble ? Oh.
L'homme ou l'œuvre ?
Les deux, mon général.
L'homme, c'est un mélange d'humilité et de générosité incroyable. Voilà, Pierre, c'était un solitaire, c'était quelqu'un qui courait pas les plateaux, qui faisait son métier humblement, besogneusement. Il adorait ça, prendre le temps, gratter, voilà. Et puis cette générosité, vous pouvez pas imaginer le nombre de gens qui lui sont redevables. C'est des dissidents africains aux gens dans la peine dans son village.
Et sur l'œuvre, Mitterrand, le passé pétainiste, qu'est-ce qu'il vous avait dit de ces... Ce qu'il n'a peut-être jamais dit sur sa rencontre avec Mitterrand, quand il lui montre les documents. On avait passé tout à l'heure sur Europe 1 un extrait de son interview avec Michel Field ici sur Europe 1, où Mitterrand, en fait, ne disait rien quand il voyait les documents et les faits étaient là.
Oui. Non, il a très, très, très mal vécu la sortie du livre, parce que la photo de la remise de la Francisque par Pétain à Mitterrand avait tordu le sens de son enquête. En fait, ce qu'il avait découvert, c'est que on pouvait avoir été de droite, très à droite, et pendant la période de l'occupation, découvrir autre chose par patriotisme, voilà, par engagement, etc. Qui va rapprocher d'une notion d'un peuple et d'une notion d'une société civile. Et donc, c'était le portrait de l'évolution d'un jeune homme très à droite qui devient à la Libération un grand résistant. Bon. Et tout d'un coup, c'est devenu le pétiniste. Et donc, il n'a pas compris comment cette histoire lui a échappé.
Un mot de conclusion pour rendre hommage à votre ami, Pierre Péan. Ce serait quoi ?
Oh, mon Dieu. Tant d'amour. Désolé, je ne peux pas dire autre chose.
Merci Christophe Nick d'être venu rendre hommage à Pierre Péan, votre ami journaliste d'enquête et non d'investigation, on l'aura compris.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
Europe 1. Après des revers dans la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday a donc changé d'avocat. Explication dans un instant avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 19h sur Europe 1. Sébastien Guyot.
Et dans un instant, nous allons revenir donc sur cette saga judiciaire qui dure depuis la mort de Johnny Hallyday, depuis un an et demi, avec l'héritage entre le clan Laetitia Hallyday et les enfants de Laura, et les enfants, Laura Smet et David Hallyday. Mais d'abord, nous allons accueillir notre invité, Guillaume Daret. Guillaume Daret qui a écrit un livre sur le fort de Brégançon. Je crois que nous avons quelques problèmes techniques et donc nous ne sommes pas encore en liaison avec lui. Guillaume Daret qui a écrit un livre, donc je vous le disais, sur le fort de Brégançon. Il va nous raconter dans un instant les coulisses, les secrets de ces vacances présidentielles, puisque Emmanuel Macron est arrivé, vous le savez, hier au fort de Brégançon. Yasmina Katou, qui est notre envoyée sur place, nous en parlait tout à l'heure. Guillaume Daret, vous êtes en ligne avec nous ?
Oui, absolument.
Bonsoir. Alors, l'an passé, l'installation d'une piscine hors sol à 34 000 euros avait créé la polémique. Bon, on peut dire que cette année, le couple présidentiel peut en profiter de cette piscine déjà ?
Absolument, cette année a eu lieu l'année dernière, ils peuvent en profiter, et rappelez-vous, les deux motivations qui avaient été les plus importantes pour construire cette piscine, c'était à la fois des questions de sécurité, mais aussi d'intimité et de coûts finalement financiers, parce que, vous savez, la petite plage qui est située en bord de Fort Brégançon, que tous les Français connaissent, aujourd'hui, avec les moyens dont disposent les photographes, les paparazzi, c'est impossible de se baigner pour le président, pour son épouse, pour sa famille, sans être pris en photo. Cette piscine à l'intérieur du fort, ça permet justement au couple présidentiel d'y échapper. Une polémique d'ailleurs que Brigitte Macron avait bien compris, puisqu'il y a quelques semaines, elle avait expliqué qu'elle comprenait que les Français puissent ne pas comprendre et que c'était une critique qu'elle acceptait.
Alors là, liaison n'est pas très bonne, cher invité que nous avons ce soir, Guillaume Daret. Est-ce que vous savez pourquoi Emmanuel Macron est plus discret que ses prédécesseurs quand il vient à Brégançon ?
Je pense qu'il y a une volonté très claire de montrer qu'il n'utilise pas ce lieu pour faire sa communication personnelle. C'est une communication en tant que chef d'État. Son entourage l'a souvent répété. Ce qu'on appelle Brégançon, on l'appelle l'Élysée l'été. Le message derrière l'aspect de communication, c'est dire que c'est un lieu dans lequel il travaille comme s'il était à l'Élysée. C'est certes un outil politique, mais ça peut être aussi un outil diplomatique. Regardez, l'été dernier, il avait reçu Theresa May. Certains s'interrogent, est-ce qu'il ne recevrait pas cet été Boris Johnson ? Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus discret, pas de sortie officielle en tant que telle. La seule sortie qu'il avait faite, c'est à Borne des Limousins pour célébrer l'anniversaire de la libération de cette commune.
Alors, rapidement, Guillaume Daret, vous qui avez écrit Le Fort de Brégançon, histoire et coulisses des vacances présidentielles. Quand les présidents ne sont pas en vacances, là, je crois que l'an passé, Emmanuel Macron est venu deux fois. À quoi il sert ce fort de Brégançon le reste de l'année ?
Eh bien, le reste de l'année, ce fort de Brégançon, il est en grande partie pendant quelques mois ouvert au public pour les visites. Hein. C'est pas toute l'année, mais sur un certain nombre de mois au cours de l'année. C'est François Hollande, rappelez-vous, qui avait ouvert ça quand il avait décidé, en fait, dans l'effet de ne plus y aller. Il avait dit on va l'ouvrir au public. Comme ça, les Français pourront voir ce patrimoine de la République. Emmanuel Macron, il a décidé de se récupérer ce fort-là, mais tout en essayant de conserver des moments d'ouverture. Donc, les touristes qui avaient voulu visiter ce haut lieu symbolique de la République, ils ont pu le faire jusqu'à mi-juillet. Ils pourront le faire ensuite, fin ou début septembre, quand le président aura quitté ce lieu. Et puis, au cours de l'année, le président y vient moins, évidemment, mais rien n'empêche, s'il le souhaitait, d'inviter, on le disait, un hôte étranger, ou de venir passer quelques jours, même durant l'hiver. Il y était, rappelez-vous, justement, pour le 31 décembre 2018, Emmanuel Macron et son épouse étaient présents à Bormes-les-Mimosas.
Absolument. Merci Guillaume Daret, auteur de ce livre, Le Fort de Brégançon, histoire et coulisses des vacances présidentielles, aux éditions de l'Observatoire.
Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Sébastien Guyot.
Et on revient à présent sur cette saga judiciaire donc, qui dure depuis la mort de Johnny Hallyday, l'héritage entre le clan Laetitia d'un côté, les enfants Laura Smet et David Hallyday de l'autre. Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
Vous suivez ce dossier pour Europe 1. On a appris aujourd'hui que Laetitia Hallyday avait décidé de changer d'avocat. On sait pourquoi.
Alors sans doute pour plusieurs raisons, mais la première reste le revers judiciaire essuyé par la veuve de Johnny en mai dernier. Une décision du tribunal de Nanterre qui allait au-delà des espérances de Laura et David en reconnaissant que Johnny était plus français qu'américain, qu'il avait sa résidence habituelle dans l'Hexagone. La juge ouvrait alors la voie à une application du droit français des successions, c'est-à-dire en fait à l'annulation du testament qui ne léguait rien aux aînés du rocker. L'autre enjeu réside dans les négociations en coulisses pour trouver un accord sans attendre les interminables années de procédure, laborieuses négociations au cours desquelles le clan des enfants David Hallyday Laura avait commencé à se demander ces derniers mois dans quelle mesure Laetitia Hallyday était bien tenue au courant de tout ce qui s'y jouait. Bref, exit l'avocat des dernières années de Johnny, maître Amir Aslani, jusque-là très discret avocat d'affaires qui avait notamment organisé le patrimoine du chanteur en trust américain. Laetitia Hallyday s'est choisie un trio de conseils pour reprendre ses intérêts, un parisien et deux montpelliérains, dont l'avocat qui défend déjà son père, André Boudou, dans ses démêlés avec le fisc. Sur leur bureau, l'appel de cette décision défavorable, ce sera début novembre à Versailles, mais aussi les procédures aux États-Unis et donc les tractations parallèles.
Merci pour ce décryptage, Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
18h-19h, Sébastien Guyot sur Europe 1.
Et à 18h46, le rappel des titres avec Sophie Echen.
Journée noire pour le cyclisme français. Alaphilippe perd son maillot jaune, Thibaut Pinot abandonne. Une étape hors norme interrompue à cause d'une averse de grêle. Le Colombien Egan Bernal récupère le maillot jaune au sommet du col de l'Iseran. La scène avait suscité l'indignation sur les réseaux sociaux en décembre dernier. Des dizaines de jeunes rassemblés par les forces de l'ordre à genoux, menottés. Le parquet de Nanterre annonce ce soir que l'enquête de l'IGPN sur l'interpellation des lycéens de Mantes-la-Jolie est classée sans suite. La France demande la libération immédiate d'une équipe d'action contre la faim enlevée au Nigeria par des djihadistes. Dans une vidéo diffusée hier par le groupe affilié à l'État islamique, on peut voir une femme en hijab affirmer qu'elle fait partie de l'ONG et qu'elle a été enlevée avec ses 5 collègues. Et puis 27 départements français toujours en vigilance orange à la canicule ou aux orages dans l'est du pays. Alors que le mercure redescend sur le reste du territoire, plus de 6500 hectares de terres agricoles et de forêts ont brûlé en France dans des incendies provoqués par la forte chaleur combinée à la sécheresse. Les pompiers préviennent que le risque reste très présent sur l'ensemble du pays.
Merci Sophie Echen.
Hommage aux poilus autour de la figure de l'écrivain Maurice Genevoix. C'était dans le cadre des célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Eh bien, la panthéonisation se concrétise et on en parle dans un instant sur Europe 1 avec Nicolas Carreau. Jusqu'à 19h, vous écoutez Sébastien Guyot, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Il y aura bientôt un nouveau grand homme au Panthéon, c'est officiel. Le transfert des cendres de Maurice Genevoix a été autorisé. Bonsoir Nicolas Carreau.
Bonsoir.
C'était la volonté d'Emmanuel Macron pour rendre hommage, avait-il dit l'an passé, à la nation combattante. Et donc Maurice Genevoix va entrer au Panthéon avec ceux de 14.
Et oui, ceux de 14, c'est le titre de l'un de ses récits de la Grande Guerre. Maurice Genevoix, qui était académicien, vous savez, grand romancier. Emmanuel Macron a repris la formule en novembre dernier pour annoncer la panthéonisation de l'écrivain. Je souhaite que ceux de 14 franchissent ce seuil sacré avec Maurice Genevoix, leur porte-étendard. C'est donc à la fois l'écrivain qui est honoré, mais aussi symboliquement les soldats de la Première Guerre mondiale. En plus de ceux de 14, Maurice Genevoix a publié d'autres récits de guerre. Sous Verdun, Nuit de guerre, Au seuil des Guitounes ou Les Éparges, il incarnait à la fois comme témoin direct et comme écrivain une mémoire de la Grande Guerre. Écoutez ce qu'il disait en 1978 dans une interview télévisée.
Nous avions été embarqués dans cette aventure sinistre, effroyable, humainement parlant, mais au moins nous nous disions, et c'était ça, faire le sacrifice de sa vie. Et à une cause qui nous devenait, qui était à nos yeux sacrée, nous estimions, nous étions sûrs qu'après ça, nous vivions tellement d'ignominie, d'abomination, que la mémoire des hommes en resterait imprégnée à jamais, que les hommes diraient en conséquence plus jamais ça. Hein? Bon, ça a duré 20 ans, vous le savez.
Et c'est pas le seul écrivain au Panthéon, hein, Nicolas Carreau.
Maurice Genevoix sera le 7e écrivain à franchir les portes du Panthéon après Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Émile Zola et André Malraux.
Et pour la date du transfert, on n'a pas encore de date précise. Hein. Merci Nicolas Carreau. J'accueille à présent un auditeur, Emmanuel, c'est ça ? Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir Sébastien.
Vous avez 43 ans, vous venez d'où ?
De Cholet.
Alors avec vous, on va parler de cette étape incroyable du Tour de France. Aujourd'hui, j'imagine comme beaucoup de Français, vous êtes triste ce soir de voir Alaphilippe perdre le maillot jaune et puis surtout Thibaut Pinot en larmes qui abandonne.
Ah oui, oui, c'est vraiment une grosse déception. C'est pour ça que quand j'entendais votre émission, je me suis permis de vous appeler. Parce que c'est vrai qu'on fondait, tout un pays fondait ses espoirs sur l'un ou l'autre. C'est vrai que personnellement, je croyais plus en Thibaut Pinot. Il a vraiment cette année la caisse pour aller chercher cette victoire. Et l'abandon de ce matin, c'est une malédiction. Bon, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Ça lui est arrivé au Giro l'année dernière.
Ah, c'est pas que la deuxième fois. Je crois que c'est même la quatrième fois qu'il abandonne en sept participations.
Ah, au Tour de France.
Au Tour de France, sept participations.
Je veux dire, c'est la deuxième fois dans des situations où il est en position pour aller chercher la victoire. Au Giro, il y a un an et demi, ça aurait été compliqué, mais il aurait pu. Peut-être essayer de décrocher. Cette année, je pense qu'il en avait les capacités. Il y a une vraie malédiction le concernant. Et plus généralement, je dirais même peut-être les potentiels vainqueurs du Tour de France depuis plusieurs années, puisque si on se remonte il y a 30 ans, Laurent Fignon...
sur le contre-la-montre sur les Champs-Élysées avec Greg LeMond, c'était terrible.
Exactement, il avait une blessure à l'aine, je crois, ou je ne sais plus trop où. Et alors bon, est-ce que c'est des blessures liées au stress ou je ne sais quoi? Là, bon, on a un peu les détails, mais c'est quand même.
Emmanuel, vous parliez de la malédiction Pinot. C'est vrai. En 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait enlevé son fil de l'oreillette. Il était énervé et le fil de l'oreillette s'était pris dans les roues. Et puis après, il avait une angine fatale.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il les accumule. Je sais pas si on peut parler de malchance, mais il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose sur Thibaut Pinot et c'est vrai que c'est regrettable. Cette étape, nous met mal parce que Julien lâche le maillot, mais ça, on y était
vous
préparé.
Vous y attendiez, hein, oui.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire que vous ne croyez plus en la victoire d'Alaphilippe. Il l'a dit lui-même d'ailleurs à l'arrivée.
Non, c'est pas possible. Il reste demain et aller chercher 30 secondes à Bernal avec l'Armada et Ineos. Non, c'est ça y est, maintenant il faut qu'ils se battent pour essayer de
rester sur le
podium. Garder une place sur le podium, voilà.
Ouais, malgré tout, vous avez vibré comme rarement devant votre télévision. Est-ce que vous êtes allé sur les routes du Tour? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire cette année?
Ah, j'ai eu l'occasion, pas cette année. Non, j'ai pas eu l'occasion cette année. J'étais allé à Fermont déjà il y a quelques années maintenant. J'ai fait une étape arrivé à Otakam, c'était grandiose. On a gagné Nibali à gagner. Mais je suis un fidèle téléspectateur du Tour de France depuis ma plus tendre enfance. Et c'est vrai que j'attends toujours un successeur à Bernard Hinault, comme beaucoup de Français.
1985, la dernière victoire française.
35-34 ans, et c'est vrai que ça commence à faire long.
C'est un peu comme au tennis, hein, Yannick Noah 1983, Roland Garros, on a
alors,
du mal.
Ouais, c'est exactement ça. Alors je pense que Noah, il n'a pas de soucis à se faire quant à son successeur. Enfin, je veux dire, il va garder longtemps le titre de dernier vainqueur parce que j'en vois pas un à l'horizon de 10 ans.
Mais sur le Tour de France, on peut garder espoir.
Sur le Tour de France, on peut garder espoir.
Ça sera peut-être l'année prochaine pour Thibaut Pinot.
Voilà, hein. Et quand on voit David Gaudu derrière, quand on voit Alaphilippe Pinot et Bardet sont encore jeunes, même si la trentaine approche pour les deux derniers, je pense qu'il faut garder, il faut y croire. Mais c'est vexant ce qui se passe aujourd'hui parce que depuis une semaine on espérait, on s'était dit l'un ou l'autre. Personnellement, je croyais plus son Pinot, encore une fois.
Mais ce ne sera pas pour 2019, on a compris.
Ce ne sera pas pour cette année.
Merci, voilà. Merci Emmanuel d'avoir appelé et ce sera donc pour l'année prochaine, on l'espère.
La suite est fin de votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Guillaume.
Avec du sport toujours et puis du football. Et oui, le foot revient, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
C'est la Ligue 2 qui reprend ce soir. 8 matchs au programme à 20h. Alors, on va poser le cadre. Hein. Quels sont les favoris cette année?
Alors, l'un des grands favoris, c'est Lens. Et vous l'entendez, sa plus grande force.
Son public de rêve.
Extraordinaire, le Stade Bollaert. 25 000 spectateurs pour entonner ce chant de Pierre Bachelet. C'était les corons. C'est d'ailleurs la plus grande affluence, bien sûr, de la Ligue 2 et le plus gros budget de ce championnat avec 35 millions d'euros. Les 100 et or cherchent depuis 4 ans à revenir dans l'élite. Ils ont recruté 8 joueurs, notamment le milieu défensif et ancien Toulousain Yannick Cahuzac. Mais la bataille s'annonce féroce avec Guingamp et Caen descendus de Ligue 2. Lorient qui a demandé à Christophe Pélissier, ancien entraîneur d'Amiens, de succéder à Mickaël Landreau à la tête de l'équipe. Ou encore 3 toujours bien placés. La curiosité, c'est Paul Le Guen nommé à la tête du club doyen Le Havre. Le triple champion de France avec l'Olympique Lyonnais n'a plus entraîné en club depuis 10 ans.
Alors ça c'est pour les gros, du côté des petits poussets, il y a notamment le promu hein, Chambly, une petite ville de 10 000 habitants seulement dans l'Oise.
Exactement, et le club a été créé il y a 30 ans et découvre donc le monde pro. Chambly va jouer à Beauvais mais aussi à Charletier à Paris, cette saison faute de stade homologué, tout comme le promu Rodez obligé de disputer ses rencontres à Toulouse, un problème que n'a pas Le Mans et son stade XXL. Sochaux maintenu in extremis mais aussi Auxerre et son nouvel entraîneur Jean-Marc Furlan essaieront de trouver un second souffle cette saison.
Merci Cyril de la Morinerie. Donc début de ce championnat de France de Ligue 2 ce soir à 20h. Le cyclisme, on repart sur la route du Tour rejoindre un de nos envoyés spéciaux, Axel May. Bonsoir Axel.
Bonsoir.
Vous nous avez fait vivre cette étape absolument hallucinante et vous allez la détailler encore ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire dans le Club Tour dans un instant après le journal de 19h.
Oui, juste deux citations. Egan Bernal, le Colombien, nouveau maillot jaune, qui dit « Un rêve pour moi ». Et puis Julien Alaphilippe, qui était encore maillot jaune ce matin, qui lui parle au passé. C'était un rêve. Autrement dit, Bernal a sans doute gagné le Tour de France. Et puis, il y a eu ces conditions apocalyptiques, cette météo et cette étape neutralisée du jamais vu, hein, de mémoire de suiveur du Tour de France.
Oui, et on va revoir ça, bien entendu, avec vous, juste après, avec vos consultants, Thomas Veuclair et Patrick Chassé. Et puis vous citiez, je vais faire une autre citation, celle de Bernal, « Quand on m'a donné le maillot puis le petit lion, j'ai eu envie de pleurer ». Voilà, les larmes de joie de Bernal et les larmes tout court de Thibaut Pinot. À tout de suite, Axel May.
Merci Sébastien Guyot, vous revenez bien sûr demain sur Europe 1.
Avec grand plaisir.
Et à suivre la météo.